je suis revenu.
Voilà, c'est une création pour la lutte de la science. Terminator version grenouille pour parler de l'un des pathogènes les plus meurtriers de la planète et de son terrible bilan aujourd'hui, Axel Villard.
Oui, il a causé en 50 ans plus de 90 extinctions d'espèces et fragilisé plus de 500 autres. Le champignon Batrachochytrium dendrobatitis ou BD est suivi de près par les naturalistes. Alors l'année dernière, on découvrait son aire géographique d'origine et cette semaine, c'est le compte de ses exactions qui est publié dans la revue Science. Une présence mondial, des effets dévastateurs sur des centaines d'écosystèmes et un bilan qui le place en tête des espèces destructrices de biodiversité devant le rat et le chat. Et pour en parler, nous sommes avec le biologiste Claude Millot en duplex depuis les locaux de France Bleu Hérault. Bonjour.
Bonjour Alex et Mathieu,
bonjour
à votre invité, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Alors on pourrait peut-être commencer par présenter notre tueur. Quelle est l'action de ce champignon sur les populations de grenouilles une fois qu'elles sont infectées ?
Alors ce champignon, il se développe sur la kératine des amphibiens, c'est-à-dire cette substance qu'on trouve dans les cellules de l'épiderme, et il la consomme, et évidemment l'amphibien va réagir, et pour les espèces sensibles, eh bien ils vont s'infecter, et progressivement l'individu va s'épuiser et il va en mourir. Donc en fonction des espèces, en fonction des populations, eh bien l'impact peut être dévastateur. On va avoir des espèces qui sont très sensibles. On peut aussi avoir ce pathogène qui présente des virulences différentes. Et puis évidemment, ces histoires d'hôtes et de pathogènes, l'hôte étant l'amphibien, le pathogène étant le champignon, sont toujours régulées par des conditions environnementales. Hein, c'est toujours un ménage à trois, l'environnement, l'hôte et le pathogène. Et il se trouve que ce champignon, dont l'aire de répartition naturelle est l'Asie du Sud-Est, a été introduit dans de nombreux écosystèmes du reste du monde, hein, sur l'ensemble des continents, et bien là, confronté à des nouveaux hôtes dans ces environnements, il provoque dans de nombreux endroits ces mortalités massives.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le responsable du désastre, c'est l'homme en fait.
Alors, ce sont les activités humaines, on va le dire comme ça. Ouais. C'est vrai qu'au cours du l'étude précédente qui avait été publiée dans la revue Science montrait l'identification de l'aire d'origine, hein, l'Asie du Sud-Est, et aussi la datation de ces introductions qui montrait que c'était le XXe siècle. Et le XXe siècle, en effet, c'est le siècle des grands échanges. Hein, et donc, ce sont en effet les amphibiens déplacés, introduits, utilisés pour la consommation humaine, utilisés dans les laboratoires de recherche. Hein, l'amphibien, c'est un organisme modèle dans beaucoup d'endroits. Puis, relâchés dans la nature, eh bien, ils ont transmis leurs pathogènes aux populations naturelles. Alors, on est bien dans le cas d'une espèce invasive, hein, oui. Puisqu'on a changé d'aire de répartition.
Et le bilan qui est publié là cette semaine, il est vraiment très lourd. C'est 500 espèces impactées, 90 éteintes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu réagir avant, puisque là, ça fait 50 ans que ça dure?
Alors l'originalité de cette nouvelle étude, c'est que avant on faisait des hypothèses sur la disparition de ces espèces. On disait il y a des chances que ça soit à cause de ce pathogène, etc. Là l'originalité de l'étude, c'est que le champignon a été décrit dans les années 90 et donc on a maintenant pour certains endroits 30 ans de suivi des populations d'amphibiens dont on sait qu'elles sont impactées par le pathogène et on peut décrire des sortes de patrons de disparition. On sait à quel rythme, on sait quels sont les individus touchés. Est-ce que c'est les jeunes, les têtards, les adultes, etc. Bref, on peut faire des sortes de modèles d'extinction en lien avec ce pathogène. Eh bien, on peut maintenant utiliser les données historiques, regarder ce qui s'est passé depuis le XXe siècle, le début du XXe siècle, pour lesquels on a des extinctions d'espèces. Et si ça ressemble aux extinctions qui sont décrites depuis 30 ans, eh bien, on y attribue la cause, le pathogène en question.
Quelles sont les zones dans le monde qui sont les plus touchées par ce champignon ?
Alors le champignon, il a vraiment une répartition mondiale. Dans son aire d'origine, eh bien, il a coévolué avec ses hôtes, hein, donc il ne provoque pas de mortalité massive. Par contre, dans les zones intertropicales, en particulier en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans certains endroits d'Amérique du Nord et en Australie, là, on a des endroits documentés de mortalité massive causée par ce champignon.
Alors vous l'avez dit, c'est en partie les grenouilles qui voyagent, qui sont vecteurs de ce champignon. Si des passionnés d'aquariophilie nous écoutent, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer pour éviter de participer au désastre? Alors si on veut donner quelques conseils.
Alors déjà, la réglementation pour l'importation des grenouilles pour la consommation oblige maintenant des importations d'animaux congelés. Donc on a résolu le problème de cette manière.
Oui.
Concernant l'activité en effet de terrariophilie, il y a encore un commerce hein, de ces amphibiens pour animaux de compagnie, on va dire. Et donc un minimum de mesures sanitaires, c'est-à-dire éviter évidemment de relâcher les animaux dans la nature, ça c'est impératif. Éviter aussi de vider des aquariums dans la nature pour ces possibilités de transmission des phases libres hein, du champignon. Le champignon il se reproduit en ayant des spores libres et ce sont ces spores qui sont susceptibles de contaminer les autres espèces. Donc voilà, je pense qu'il y a des mesures sanitaires très simples à prendre en compte pour limiter ça. D'un autre côté, les États ont commencé à prendre des mesures. Hein. L'Amérique du Nord, par exemple, a interdit l'importation de beaucoup d'espèces d'amphibiens d'Asie du Sud-Est parce que, du fait de la présence d'un nouveau pathogène, un autre champignon qui provoque des mortalités massives de salamandres, eh bien, ils considèrent qu'il y a un risque sur ces populations de salamandres, sachant que l'Amérique du Nord est très riche en espèces de salamandres.
Merci beaucoup, en tout cas, Claude Millot, pour ces précisions autour de cette triste publication hein, autour des amphibiens. Merci à vous. Et puis, Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, l'histoire forestière des peuples d'Amazonie dans les cernes des arbres. Une équipe d'archéologues et de dendrochronologues, spécialistes donc des cernes d'arbres, confirme que les peuples du Brésil ont fortement domestiqué la grande forêt avant l'arrivée des Européens. Ils montrent notamment de fortes modifications dans la croissance des arbres à noix, type coco et palme, il y a 400 ans. Une étude qui confirme encore une fois que l'image de la forêt vierge amazonienne est largement fausse. Des chercheurs américains découvrent un organisme vivant contenant de la chlorophylle, mais ne pratiquant pas la photosynthèse, cette méthode utilisée par les plantes, surtout permet de convertir l'énergie du soleil en matière. Découvert dans le tube digestif de différentes espèces de corail dans le monde, ce micro-organisme intrigue beaucoup les chercheurs. En effet, la chlorophylle, pigment vert, est capable d'emmagasiner une grande quantité d'énergie. Mais pour en faire quoi? La question reste ouverte. Et puis pour terminer, un astéroïde qui s'auto-détruit à cause de sa vitesse de rotation, la NASA a repéré cette dislocation sur des clichés pris par le télescope Hubble. Gault, c'est son nom, mesure 4 km de diamètre. Il voyage à grande vitesse entre Mars et Jupiter. Il tourne sur lui-même, si vite d'ailleurs que des glissements de terrain à sa surface sont en train de le démanteler complètement. Les chercheurs expliquent que sa vitesse de rotation ne pouvant que grandir à cause des vents et de l'activité solaire, Gault est voué à s'auto-détruire. Ça vous étonne, Hélène Courtois, cette information?
Ça m'étonne un petit peu parce que je trouve ça rigolo, mais parce que j'en avais pas entendu parler, mais ça m'étonne pas du point de vue de la physique.
Voilà.
Je me dis que finalement, il va ressembler à une comète qui va se désagréger petit à petit. Mais c'est vrai qu'on s'attend pas à ça d'un astéroïde. Normalement, les astéroïdes, c'est assez compact. Ça reste... C'est pas facile à détruire. Hein, mais...
Info de la semaine, en tout cas, repérée.